Les marchandes de sable, malices et maléfices, contes de monstres, de Jacques Cassabois. Le lion de Némée. Eurysthée était roi de Tyrinthe. C'est lui que les dieux avaient chargé d'imposer des tâches à son cousin Héraclès. Ce dernier, pendant 12 ans, serait son serviteur. Quelles que soient les missions, il devrait les exécuter. L'obéissance ne se discutait pas. Quand Héraclès se présenta devant le palais pour recevoir son premier travail, Eurysthée refusa de le rencontrer. Il lui fut transmettre ses ordres par son héros, Copré. Un lion dévaste la région de Némée, annonça-t-il. Débarrasse-nous de ce monstre et rapporte son cadavre à Tyrinthe. Pourquoi me renvoie-t-on encore chasser le lion ? Protesta le héros. J'ai déjà tué celui du Citéron. Sa peau colle encore à la mienne. J'ai fait mes preuves. Elle ne suffisait pas, car ce fauve était d'une toute autre espèce que le premier. L'animal hantait le pays de Némée, qui s'étendait au pied du mont Tréthos. C'était là qu'Héra l'avait installé pour massacrer à sa guise, en attendant Héraclès. Le héros entra dans ce domaine à midi, en pleine lumière. Dès ses premiers pas, il comprit qu'il avait changé d'univers. Ici, la menace régnait, écrasante. L'air en était suffocant, et dans le silence vibrait un lancinant bourdon. Héraclès commença sa traque en chasseur aguerri, battit la campagne jusqu'au soir. Vallons, collines, talus, il ne rencontra pas le moindre vivant, animal ou humain. Les champs étaient revenus à la friche et le pays vide se désolait. Quant au lion, à part une multitude de carcasses, aucune trace, ni empreinte, ni excrément, et la lumière qui ne déclinait pas. Ce soleil, s'irrita Héraclès, ce soleil qui éblouit. Et si c'était son masque, derrière lequel il se cache pour empêcher qu'on le voie ? Un frisson le parcourut. Il eut l'impression d'être frôlé et se retourna. Rien. Attendons l'obscurité. Mais ici, même le crépuscule était clair. Il s'en rendit compte le soir en atteignant Cléonaï, une cité proche de Némée. C'est là qu'il rencontra son premier homme de la journée, Molorcos, qui lui offrit l'hospitalité. Il pleurait son fils, un berger dévoré par le lion. La bête avait dédaigné les moutons et préféré le garçon. On n'avait retrouvé que ses vêtements. « Il choisit ses proies avec soin pour nous terroriser, » expliqua Molorcos. « On ne le voit jamais, ou parfois une silhouette. Il apparaît, frappe, disparaît. On redoute les ombres. » On redoute le vent qui agite les buissons. On le signale partout, il n'est nulle part et soudain le voilà. Il nous torture et il en jouit. Tout en parlant, il préparait une collation pour son hôte. Une poignée d'olives, du fromage et du lait de ses brebis. On dirait qu'il fouille dans nos cœurs un coup de griffe, poursuivit-il, par plaisir de dominer. Qui nous délivrera de cette calamité ? Celui-là, s'il existe, devra regarder sa mort dans les yeux. Molorcos paraissait lointain. Héraclès, touché et troublé par ses paroles, s'efforça de le rassurer. « Je suis celui qui vient réveiller l'espérance, » lui dit-il. Le vieux berger tourna vers son hôte un regard plein de compassion, puis il le laissa manger sans le questionner. Quand Héraclès eut achevé son repas, il s'installa devant la cabane, adossé au mur tiède devant le ciel profond. Il songea à ce face-à-face avec la bête. L'aube claire le trouva à la même place, toujours absorbé. Il murmurait. Si je dois payer de ma vie pour libérer Némé, je paierai. Mais ne dit-on pas que devant la mort, on revoit ses actes passés ? Avant de payer, je regarderai donc ma mort, sans broncher. Je regarderai ma vie et j'évaluerai son prix pour comprendre la valeur de Némé. À cet instant, il entendit un bêlement. C'était un bélier que Molorcos tirait par une longe pour l'immoler à Zeus. Héraclès l'arrêta. « Ne te précipite pas, lui dit-il. On entre aujourd'hui dans le mois du bélier, celui de ma naissance. Accorde-moi cette lunaison pour tuer le lion. Si je rentre sain et sauf, sacrifie ton animal à Zeus. Si je ne rentre pas, offre-le à ma mémoire. » Sur ces mots, il s'en alla et reprit sa traque. Il quadrilla tout le territoire et le parcourut plusieurs fois. Pas un bosquet, pas une clairière, pas un fourré, ni un amas de rochers, ni la moindre anfractuosité n'échappèrent à sa fouille méthodique. Chaque heure du jour et de la nuit le trouvait en mouvement. Il rencontra un nombre infini de dépouilles, bétail ou voyageurs imprudents, butinés par les mouches, mais aucune piste susceptible de le renseigner véritablement sur les habitudes du fauve, sur les chemins qu'il empruntait. Parfois, le vent parlait, portant l'odeur forte de la bête, ses feulements, mais ses voix se brouillaient. Signe que le lion était bien présent et qu'il se dérobait, maître du jeu. Cela agaçait Héraclès. Dans le ciel, la lune décomptait les semaines. Après être montée jusqu'à son plein, elle était redescendue à son dernier quartier et approchait maintenant de la fin de son cycle. Le 30e jour du mois, Héraclès, enfin, tomba sur celui qu'il cherchait. Le lion se tenait au sommet d'un rocher qui dominait un versant du Tréthos, exposé à la vue, paradant. Il dévorait une chèvre, puisant avec avidité dans ses entrailles et maculant de sang son poitrail chaque fois qu'il relevait la tête. Sa crinière se déployait alors tout autour de son crâne, tel un soleil. Quand il aperçut Héraclès, il s'immobilisa et émit un long grognement de bienvenue. Il provoquait son chasseur. Celui-ci s'élança, cueillant une flèche dans son carquois, tira en courant, atteignit le lion en pleine tête, mais le trait ricocha. Il lança de nouvelles salves et chaque tir faisait mouche, sans même égratigner la peau. Les pointes s'y écrasaient comme sur un mur d'airain, et le monstre plastronnait, rugissant au ciel, ouvrant une gueule capable de l'engloutir, narguant l'homme, semblant lui dire « Tu as beau faire, petit, tu as beau dire, cela ne m'atteint pas !» Héraclès, piqué au vif, délaissa son arc et sa réserve de traits, se précipita vers l'orgueilleux qui le narguait, massue dressée, et avant que le monstre ait eu conscience de l'avalanche qui roulait à sa rencontre, il lui asséna de toute sa hargne un coup à ouvrir une gorge dans une montagne. Sa massue d'olivier se fendit en deux morceaux, et le fauve, estourbi, se tassa, souffla, s'ébroua, secouant ses oreilles qui bourdonnaient, puis recula incrédule, et choisit de battre en retraite vers sa tanière. Malgré ses fouilles minutieuses, Héraclès n'avait jamais soupçonné que cette dernière pût se trouver à cet endroit. À croire qu'elle se découvrait sur commande de la bête. Le chasseur suivit son gibier et pénétra dans son antre, presque en même temps que lui. L'intérieur abritait une collection de trophées, squelettes enrobés de chair pourrie, crânes, cornes, quartiers de viande faisandés. Chaque reste annonçait un crime, racontait un crime, une embuscade, une cruauté, toute la puissance implacable du maître. La grotte s'enfonçait dans la montagne. Aussi, Héraclès progressait-il avec prudence dans une obscurité qui toutefois ne paraissait pas impénétrable. Il comprit bientôt pourquoi. Le refuge avait deux issues et le propriétaire avait faussé compagnie à son poursuivant. Héraclès se jeta en avant, furieux d'avoir été trompé, et déboucha de la cavité pour apercevoir le lion contourner le massif et le prendre à revers. Rentrer, sortir, ce jeu pouvait durer à l'infini, et le monstre habile lui glissait entre les doigts, attendre une occasion plus propice. Alors le héros rassembla d'énormes blocs de pierre dont il combla la porte dérobée. Puis il jointailla les interstices à l'aide de terre dans laquelle il avait craché pour l'amollir en mortier. À l'intérieur de l'antre, La nuit tomba alors. Ensuite, Héraclès courut à l'entrée du boyau pour couper toute retraite au fauve et il s'y enfonça, résolu à l'abattre. C'était l'instant décisif. Il devait aborder son adversaire de face et l'étrangler à main nue, puisqu'il était vulnérable au fer. Profonde était l'obscurité sans la moindre lumière. Il ne pouvait rien voir devant lui ni derrière. Il se glissait à l'oreille, au nez. Le monstre l'attendait ramassé. Héraclès s'immobilisa, écouta les signaux de son cœur et s'élança le premier. Tête basse, yeux fermés, il crocha la toison et s'agrippa au cou, large comme une roue de char. Le lion sentit la volonté pugnace et se débattit en rugissant pour anéantir l'effronté. Qu'on s'en prenne à sa suprématie décuplée sa violence. La caverne tremblait sous la furie. Des roches se détachaient, rebondissaient sur le dos des combattants. Héraclès, solidement rivé, serré et son étau impitoyable s'enfonçait dans le cou de l'animal. Celui-ci parvint tout de même à se dégager et d'un coup de croc sectionna un auriculaire de son assaillant. Héraclès ne ressentit pas la moindre douleur. Au contraire, il puisa dans ses réserves de rage, orgueil contre orgueil. Deux fauves voulaient chacun la peau de l'autre et leur force était égale. C'est alors qu'Héraclès commença à suffoquer, comme le lion suffoqué, victime de sa propre tenaille. C'est alors que, dans les yeux de son adversaire, vitreux de ses derniers instants, il découvrit l'image d'une bête qui lui ressemblait. Même prestance arrogante, même intimidation hautaine, même volonté de rester le premier, de faire le vide autour de soi, de trôner. C'est alors qu'il entendit Molorcos lui parler, regarder sa mort dans les yeux. Et soudain, l'enseignement de son maître Eurytos lui revint. L'archer est la cible, c'est toi qui touches, et toi qui es touché. Il était donc le chasseur et la proie. Tuer la proie qui règne par la terreur, c'était en même temps tuer le chasseur. Éteindre son faux soleil pour libérer le vrai, et lui donner toutes ses chances de rayonner. La vie de l'être qu'il avait pisté tout au long de ce mois du bélier s'écoulait sous ses doigts, par saccades. Et lui qui serrait manquait d'air à son tour, la poitrine durcie, asphyxiée par la douleur. Il poussa un hoquet terrifié qui ressemblait à un cri de victoire, mais il fut aussitôt pris de vertige, vacillant, et ses yeux se fermèrent en même temps que ceux du lion. Ils s'affalèrent ensemble, l'homme, toujours cramponné au cou de l'animal, ignorant qu'il l'avait vaincu. Après des heures, quand il s'éveilla de son sommeil de mort, il se crut dans le corridor des enfers. Puis il reconnut la grotte, la toison épaisse qui lui servait de couche, et la mémoire lui revint. Le délai qu'il avait donné à Molorcos pour accomplir son sacrifice s'achevait. « Attends !» s'écria-t-il en se relevant comme s'il pouvait l'entendre. « Je suis vivant ! Ton bélier, c'est à Zeus qu'il faut l'offrir ! Pas à moi !» Il extirpa de la caverne le cadavre du lion, le chargea d'un tournement sur ses épaules et dévala le mont Tréthos. Peu avant que Cléon aille, il cueillit une touffe de persil sauvage et s'en tressa une couronne afin d'assister dignement à la cérémonie organisée par le vieil homme. L'offrande terminée, il prit congé, emportant son trophée. Avant de quitter le pays de Némée, il se tailla une nouvelle massue dans un olivier sauvage pour remplacer l'ancienne qu'il avait fracassée. Alors qu'il abordait la plaine de Tirynthe, une vigie sur le rempart l'aperçut. « Un géant approche, une montagne sur les épaules !» Eurysthée, prévenu, comprit qu'Héraclès rentrait victorieux. « Il a réussi, » dit-il avec une moue admirative. « Il n'est plus le même dorénavant. Il nous a quittés. » Il distribua quelques ordres. « Condamnez toutes les portes, empêchez-le d'entrer. Il est devenu un étranger errant. Sa place n'est plus dans la cité. » Il envoya son héros, Copré, pour le recevoir et le sommer d'abandonner son tableau de chasse hors les murs. Ensuite, il convoqua forgeron et terrassier. « Préparez-moi une vaste jarre de bronze et enterrez-la profondément. Un nouveau lion arrive, imprévisible, et je ne veux pas le rencontrer. » Ses travaux s'achevaient quand Héraclès surgit et Copré lui transmit les consignes de son roi. Et pourquoi est-ce toi qui m'accueille ? Lui demanda-t-il. Pourquoi pas Eurystée ? Il est occupé. Mais non, il n'est pas occupé. Il se cache. Il jeta sur le sol le cadavre du lion, souleva un nuage de poussière et regarda la bête, inerte. Un étrange sentiment l'envahit. Une sorte de reconnaissance. Ses yeux étaient clos. C'était dans ce miroir qu'il s'était reconnu. Et il revit leur corps à corps. Je crois que nous n'en avons pas terminé, frère, lui dit-il avec amitié. Il mit genoux à terre et prit une de ses pattes dans sa main. Son esprit voyageait, bercé par la brise qui lui montait du cœur. Elle l'attira du côté de son moignon de doigts, posé sur une griffe. Et soudain, Héraclès entendit ce que la brise lui murmurait. Il est invulnérable, sauf à ses propres coups. Griffe, tranche, dénude. Alors, serrant son compagnon de lutte dans une ultime empoignade, à l'aide de ses griffes, il lui fendit la peau, du menton jusqu'au bas-ventre. Héraclès hurla et sa souffrance plana sur la cité, parvenant à rester dans sa tombe, dépouiller la bête et se dépouiller lui-même. Il endura jusqu'au bout ce supplice qui clamait « Un homme est mort, un autre est né ». Quand il eut totalement dévêtu le grand fauve, il se glissa dans sa peau, comme jadis sur le Citeron, et il devint invulnérable. Puis il fit quelques pas drapés dans sa nouvelle parure. Elle épousait ses moindres mouvements, taillés à sa mesure. Une autre vie commençait pour lui, sans gloire, sans artifice. Toutes de travaux impossibles, de soumission. Et il remercia son cœur de l'avoir guidé dans cette première épreuve. Avant de poursuivre, il interpella Eurystée face au rempart, campé sur ses deux pieds. Hé, cousin, tu m'entends ? Puisque tu m'interdis d'entrer, je te laisse un présent. Devine, la dépouille du lion. C'est moi, mon autre vie, quand j'étais vieux, quand je brillais. Fais-en ce que tu veux, je me suis taillé un costume neuf, griffé. Eurystée, qui l'avait entendu, ne répondit pas. Tout était dit, et Copré sortit de sa réserve pour transmettre sa deuxième mission au vainqueur. Venir à bout de l'hydre qui empoisonnait les marais de Lerne. Une mission de tous les dangers.
Halloween, this is Halloween. Boom, doom, scream in the dead of night. This is Halloween, everybody.